Bonjour à toutes et à tous, il est 8h. Dans quelques secondes, l'actualité du jour en France et autour de Bourg-en-Bresse. Ensuite, on regardera le temps qu'il fait aujourd'hui. Lundi prochain, le Cinémateur diffuse Made in Bangladesh au cinéma La Grenette. La séance sera suivie d'un débat animé par Artisans du Monde et Amnesty International. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Abel pour parler du film et des conditions de travail des femmes au Bangladesh. À 8h20, l'artiste de la semaine. À 8h30, Cathy Vanel nous présente Anushka Kokaba, juive et née en déportation. C'est le rendez-vous avec vous. Et à 8h45, l'agenda culturel, le carnet, présenté par France et Thomas.
Radio B. Radio B.
L'info en France est dans l'Ain avec notre stagiaire cette semaine, Lorenzo. Bonjour Lorenzo.
Bonjour Camille, bonjour les auditeurs.
Bourg-en-Bresse, on la connaît pour être la préfecture de l'Ain, la grosse ville du coin. On ne s'attendait pas à la voir apparaître sur un podium national.
Et on ne parle pas de compétition sportive, encore que le sport, il en est question. Le vélo. Bourg-en-Bresse se classe deuxième pour la catégorie 20 000 à 50 000 habitants du baromètre des villes cyclables. Il s'agit d'une enquête menée en France par la Fédération des usagers de la bicyclette. L'objectif, voir où il est le plus sûr, agréable et rapide de se déplacer en vélo. Pour ça, près de 185 000 personnes ont évalué leur ville avec plusieurs critères. Ressenti général, sécurité et d'autres qui importent autant pour la note finale.
Et Bourg dans tout ça ?
Eh bien, la ville bressane obtient un C, plutôt favorable sur une échelle allant de A à G. On espère qu'elle obtiendra un A dans les années qui viennent. La mairie actuelle de Jean-François Debat fait des efforts pour développer les pistes cyclables.
À voir avec les prochaines municipales en mars si le choix de la future mairie ira dans ce sens. Les citoyens français qui ont répondu à l'enquête désirent avoir un réseau cyclable complet et sans coupure. À l'échelle nationale, le parti du gouvernement La République En Marche, en pleine division.
Et c'est contre ça qu'Emmanuel Macron veut lutter. Il reçoit aujourd'hui à l'Élysée tous les députés de son parti. Selon un député au micro d'Europe 1, il est urgent de redéfinir une ligne et de remotiver les troupes. Le 30 janvier, la majorité LREM avait rejeté une proposition visant à allonger le congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Suite à ça, et à l'indignation de l'opposition, trois députés ont quitté le groupe LREM à l'Assemblée nationale. C'est le cas de Frédéric Tufnel, qui répondait aux questions du quotidien Sud-Ouest. Elle expliquait que la méthode de l'exécutif, notamment sur la réforme des retraites, contribue à creuser davantage le fossé entre les citoyens et la majorité. Et elle enchaînait avec une critique sur l'esprit du gouvernement. Être député ou ministre, ce n'est pas être le manager d'une grande boîte. En 2 ans, La République En Marche a perdu 14 députés. Il n'en reste plus que 300, alors que la majorité absolue est à 289 sièges. Mais seulement un député qui est resté, la plupart des départs ne se font pas par des raisons de fond, mais de personne.
Un procès qui s'ouvre aujourd'hui.
Et c'est celui du beau-père de Tony, un nourrisson décédé sous les coups il y a 3 ans. Loïc Vantal est accusé de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La mère de l'enfant, Caroline Letoile, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. La peine pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison. Le verdict est attendu ce vendredi. Une troisième personne avait été inquiétée dans cette affaire, le voisin, qui a été jugé pour non-dénonciation en octobre dernier. Il a été relaxé.
Littérature à présent, le célèbre prix Goncourt. On en parle aujourd'hui, non pas pour les écrivains récompensés, mais pour les membres du jury.
Après la démission du président Bernard Pivot, la romancière Virginie Despentes a aussi quitté l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, les 8 membres restants désignent 2 nouveaux membres. Le nouveau président, Didier Decoin, a déjà annoncé qu'il souhaitait que ce soit 2 femmes qui rejoignent le jury. Pour l'instant, elles ne sont que 2 dans l'équipe.
On passe au sport.
Un match de basket aujourd'hui. La JL Bourg rencontre Cholet à Equinox. Une rencontre à domicile donc pour la 23e journée de la JP Elite. Le dernier match joué contre eux avait été perdu par l'équipe burgienne, 88 à 60. Cholet dispose d'un des meilleurs marqueurs, Chris Harton. L'équipe burgienne a différents atouts, notamment l'adresse à 2 points du joueur Pierre Pelos. D'autant plus qu'il joue à domicile. Leur dernier match vendredi face à l'Élan Béarnais a été une victoire, 84 à 62. La JL Bourg est 6e au classement, une place derrière leur adversaire de ce soir, mais avec le même pourcentage de victoires. Le match est à 20h.
Et on finit avec les travaux à Bourg.
Depuis hier, la rue Grenouillère est fermée à la circulation. Elle se situe entre le centre des finances publiques et la librairie Montbarbon. Une canalisation d'eau est réparée.
Radio B, les bonnes ondes.
Et maintenant, la météo.
Cette nuit, vous avez sûrement entendu des rafales de vent frapper à votre porte. Même si on est loin des rafales à 160 km/h de la tempête Ciara, hier, 13 départements étaient encore en vigilance orange. 130 000 foyers étaient privés d'électricité. Dans l'Ain, des rafales atteindront les 50 km/h à Mâcon. Toute la journée, il y aura de rares averses dans l'ouest du département et un temps un peu meilleur dans l'est. Pour les températures, ce matin, il fera 7 degrés autour de Châtillon-sur-Chalaronne, 8 à Bourg et 9 à Trévoux. Cet après-midi, il fera entre 5 degrés sur le plateau d'Hauteville et 11 à Mâcon. Merci d'écouter Radio B.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Et même si notre amour à tes devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Lundi prochain, le Cinémateur diffuse Made in Bangladesh au cinéma La Grenette. La séance sera suivie d'un débat animé par Artisans du Monde et Amnesty International. Nous sommes avec Philippe Abel pour parler du film et les conditions de travail des femmes au Bangladesh. Le point de départ du film, c'est l'effondrement d'un immeuble qui a causé plus de 1000 morts dans les ateliers. C'est un événement qui a réellement eu lieu au Bangladesh et c'est le drame de Rana Plaza en 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors déjà, si vous voulez, parce que alors le Rana Plaza, effectivement, comme vous le dites, a eu lieu le 24 avril 2013. Si on se remet dans le contexte, Rana Plaza, c'est un atelier avec une usine de plus de 5000 personnes qui appartient à M. Rana, qui est un politicien de la Ligue Awani, hein, un parti qui est majoritaire au Bangladesh, et qui a quand même provoqué 1130 morts. 1130 morts et des milliers de personnes blessées et handicapées, dont beaucoup de femmes et d'enfants qui vivaient dans l'atelier en question. Les circonstances sont aussi terribles puisque la veille, des inspecteurs de sécurité avaient décelé des fissures, demandé à ce qu'on évacue l'atelier. Les ouvriers avaient refusé de prendre le travail et avaient été obligés sous la menace de licenciement. Donc ça a été un choc au niveau mondial. Puisqu'effectivement, il y a eu un hashtag qui fabrique mes vêtements et une grosse mobilisation aussi au Bangladesh. Et pour la première fois, il y avait une tâche sur les entreprises multinationales qui montrait dans quelles conditions elles faisaient travailler leurs sous-traitants, leurs filiales et leurs fournisseurs. Et que finalement, les t-shirts à bas prix, on les avait grâce au sang et à la sueur des femmes du Bangladesh en question. Voilà pour quelle raison ça a été un choc au niveau international, au-delà même de la situation au Bangladesh et des manifestations que ça a suscité.
Donc il y a un choc mondial. Et d'ailleurs, en France, cet événement a donné son nom à une loi, la loi Rana Plaza. De quoi s'agit-il pour les entreprises ?
Voilà. Alors donc, il faut faire un petit historique. Grâce à cet événement qui est devenu mondial, comme vous le disiez, il y a eu une mobilisation des ONG, des organisations non gouvernementales, en demandant déjà que les entreprises multinationales qui créent le risque soient tenues pour responsables du risque qu'elles créent en matière d'environnement, en matière de droits humains, en matière aussi de lutte contre la corruption. Et en revendiquant le fait que ces droits humains devaient passer au-dessus du droit commercial. Et ça a donné lieu aux premières normes internationales en matière de droits humains, de ce qu'on appelle l'obligation de vigilance des entreprises multinationales, avec notamment un pacte mondial de l'ONU, et puis une organisation tripartite au niveau de l'OIT, une plateforme au niveau de l'Organisation internationale du travail, reconnaissant pour la première fois au niveau mondial cette obligation de vigilance des entreprises multinationales. Le gros problème, c'est que ce n'est pas obligatoire. Et donc, Amnesty et d'autres ONG, on n'est pas tout seul, loin de là, ont relayé cette obligation de vigilance internationale pour que ce soit obligatoire en France. Et ça a donné lieu à la loi du 27 mars 2017. Vous voyez, quand même, 4 ans de combat acharné qui, pour la première fois en France, reconnaît à toutes ces entreprises de plus de 5000 salariés en France et plus de 10 000 dans le monde, l'obligation d'un plan de vigilance. Donc, pour identifier le risque, pour prendre des mesures de prévention et pour les évaluer. Pour la première fois, effectivement, donc la France est un peu à la pointe sur cette obligation juridique du combat, mais grâce à la mobilisation des ONG. Et donc, c'est un grand progrès qu'il faut poursuivre, parce que ces plans de vigilance, malheureusement, on en a fait l'évaluation 3 ans après, il y en a très peu, ou alors ils sont indigents, il n'y a pas grand-chose dedans.
Est-ce qu'ils sont concrètement respectés et mis en place ?
Alors, le gros problème, si vous voulez, c'est ça, c'est qu'on a analysé, donc je vous ai dit 27 mars 2017, 2 ans après, on a analysé les plans de vigilance en question. Et sur 80 entreprises qui devaient réaliser des plans de vigilance, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont fait aucun plan de vigilance, et puis certaines dans lesquelles il n'y a pratiquement rien en termes de cartographie des risques. Mais, encore une fois, c'est un progrès. C'est un progrès. On peut s'appuyer, nous, sur une base juridique. Et maintenant, on revendique que l'État prenne ses responsabilités et demande aux entreprises d'appliquer véritablement les plans de vigilance. Au moins, on a une base pour le faire, ce qui n'était pas le cas avant.
Et si les entreprises ne respectent pas, est-ce qu'il y a des sanctions ? Est-ce que la loi, elle va assez loin ?
Alors, la loi prévoit des sanctions. Donc maintenant, en fait, il faut faire des recours. Il faut que, lorsque de nouvelles catastrophes se produisent, que des recours soient faits à l'encontre de ces entreprises-là pour qu'elles soient condamnées par le juge. Malheureusement, ou heureusement, puisqu'on est dans un état de droit, l'étape suivante, c'est celle-ci.
Vous parliez de cartographie des risques. Quels sont-ils ?
Alors, les cartographies des risques, c'est pour identifier tous les risques qui, de par les activités des entreprises, ou... Et ça, c'est très important parce que c'est très complexe comme organisation. C'est un système de satellisation avec beaucoup d'écrans juridiques. Mais où des fournisseurs, des sous-traitants et des filiales des entreprises. Donc toutes les activités qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits humains, exemple sur les conditions de travail, à l'environnement, les pollutions liées à l'industrie textile ou même à la corruption dans les pays, parce qu'il y a une corruption massive au Bangladesh comme ailleurs, que c'est tous ces risques-là soient identifiés et que les entreprises prennent des mesures concrètes de prévention pour y remédier.
C'était la deuxième partie de l'interview de Philippe Abel d'Amnesty International. La suite, c'est demain dans la matinale de Radio B.
Sur Radio B.
On écoute toutes les musiques.
Serre-moi un verre de génépi, on va se le dire et que je te dise arrête de faire le pitre en cours. Ouais, ça c'est triste à dire les rimes.